enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, mon thème sera « Vaincre la peur ». Dis à ton voisin, tu n'auras plus jamais peur. Cécile, plus jamais peur. Ah, la peur, elle nous conditionne. Elle conditionne parfois nos réactions. Elle conditionne parfois même certaines vies. J'ai entendu des gens qui m'ont dit « Eh bien moi, monsieur le pasteur, j'ai décidé avec ma femme de ne pas avoir d'enfants parce que qu'est-ce que l'avenir leur réserve ?» Et puis vous avez des couples qui très sincèrement vont se priver d'un bonheur, des enfants, tout simplement parce qu'ils vivent dans la peur de ce qui est à venir. Je peux dans une certaine mesure les comprendre lorsque je regarde la société dans laquelle nous sommes. Mais nous, en tant que croyants, nous avons tant de raisons de ne pas avoir peur. Et c'est justement parce que moi et Dominique, nous n'avions pas peur qu'on en a eu 6. Après, on a eu peur de plus pouvoir arrêter. Ça, c'était autre chose. La peur. Permettez-moi une lecture avec vous. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Guten Nacht, Svetlana. Versets 22 à 23. Un texte que nous connaissons tous parfaitement. Vous êtes tous très à l'aise avec ce texte. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Courage !» leur dit-il, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens !» répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Et j'ai lu là dans la version français courant. Bien. Tout d'abord, dressons le tableau. Vous avez là 12 hommes dans une barque sur ce qu'on appelle la mer de Génézareth ou le lac de Génézareth, parce que pour nous c'est plus un lac qu'une mer. C'est la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire à peu près 3 heures du matin. Les vents sont contraires. Le lac est agité et je vous garantis que j'ai déjà vu ce lac être agité. Vous pouvez aussi l'appeler la mer de Galilée, la mer de Génézareth. Je vous dis cela parce que c'est toujours du même endroit qu'il s'agit. J'ai déjà vu la mer de Galilée agitée. Le ciel noir au-dessus des montagnes qui l'entourent. Le Horeb que l'on ne peut même plus voir. Et puis des vagues, des vagues sérieuses. Et je me dis, mais nous sommes là dans un contexte difficile. Et il est vrai que le tableau que j'ai devant moi est plutôt insécurisant, voire angoissant. Dans cette atmosphère-là, alors que déjà ils luttent pour leur vie, en ne sachant pas ce qu'il peut advenir, soudain, sur l'eau, un fantôme. Il voit un homme qui marche sur l'eau. Quelle fut leur réaction? Que dit la Bible? Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés. Hello, Vous savez ce que c'est la terreur? Sentiment de peur incontrôlé qui empêche d'agir en annihilant la volonté. Être saisi de terreur, paralysé par la terreur. Ils furent terrifiés et dirent « c'est un fantôme » et ils poussèrent des cris de frayeur. Est-ce que vous avez déjà entendu 12 hommes pousser des cris de frayeur, vous? Qui a déjà entendu 12 hommes pousser des cris de frayeur? Personne. Bon, c'est l'occasion de vous montrer ce que ça donne. Allez, 12 frères se lèvent. Christian, toi t'as une bonne voix, lève-toi voir. Allez, 12 hommes se lèvent spontanément là. Allez, mon frère Gérard Meyer, mon frère, oui, ceux qui parlent fort avec leur épouse, levez-vous voir. Allez, Michel Ria, lève-toi. Levez-vous voir tous à votre place. Il m'en manque encore quelques jeunes là du fond. Tiens Tom, tu lèves la tête comme ça, Tom Vagneux là, voilà, tu vas te lever, tu vas prendre ton voisin qui rigole et qui se moque de toi, hein, voilà. Et puis le deuxième aussi, son frère, voilà, on a bientôt les 12 disciples, hein. 1, 2, 3, Jean-Claude, merci de te lever, 4, 5, 6, 7, 8, allez là devant, il y a une brochette de frères, Georges, 9, 10, allez je vais être le 11e, qui encore? Allez, le futur marié, tu peux t'entraîner. Le futur marié, frère Schneebelen, lève-toi. Lève-toi, parce que nous, on sait ce qui t'attend. Alors, hein, lève-toi. À trois, on va crier ensemble un cri de frayeur. Un. Et si vous êtes sur Internet, vous pouvez nous suivre. Vous avez aussi le droit de crier. Un, deux, trois. Ah! Vous avez vu ce que ça... Non, vous l'avez pas vu. Allez, encore une fois. Non, mais les frères, là, j'essaie d'avoir 12 disciples, pas 12 sœurs. Bon. Encore une fois. 1, 2, 3. C'est ça ce qui s'est passé. Vous avez le droit de prendre place. Bon, maintenant qu'on sait comment vous criez, on va prier pour vos épouses, hein, parce que alors... C'est ça ce qui s'est passé. Vous savez, nous, on lit souvent les textes et on les lit comme ça. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Ouh! Ouh! Non, ils étaient morts de trouille. Ils étaient morts de peur. Ils étaient paralysés. Pourquoi? D'abord, leur situation immédiate est terrible. Deuxièmement, pour des Juifs, voir un fantôme sur l'eau était déjà signe avant-coureur de naufrage. Ça, dans la culture juive, lorsqu'on voit un fantôme comme ça sur l'eau, c'était avant-coureur de naufrage. En d'autres mots, les gars, on va mourir, c'est terminé. Maintenant, on a déjà un fantôme qui est là, ils viennent déjà nous chercher. On est encore bien vivants, mais on est déjà des morts préprogrammés. Ils ne crient pas pour rien, ils crient parce que ce qu'ils voient leur fait vraiment peur. Mais ils crient également pour une autre raison. Ils crient parce que dans leur situation difficile, ils n'ont pas du tout imaginé la présence de Jésus. Dans leur difficulté, Jésus n'a pas sa place. Dans leur difficulté, ils n'imaginent pas que Jésus puisse venir. Pourtant, le soir précédent, ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire, la multiplication des pains et des poissons. La Bible nous dit qu'ils nourrirent 5000 hommes sans les femmes. Alors, mettez encore là des enfants, et au bas mot, nous avons là une foule de 10 000 personnes. 10 000 personnes qui vont manger à satiété, je crois que c'était plus, mais partons déjà pour 10 000. 10 000 personnes qui vont manger à satiété. Le tout a commencé avec 5 pains et 2 poissons. C'est l'extraordinaire, c'est le surnaturel. Le lendemain, en difficulté, Jésus, l'auteur du surnaturel, se présente à eux et voilà qu'ils sont saisis de terreur, saisis de frayeur, entre autres parce qu'il ne fait pas partie de leur programme. Ils n'ont pas du tout calculé avec Jésus. Ils sont en train de se dépatouiller eux-mêmes. Mes frères et sœurs, quand la difficulté vient, quand l'épreuve vient, quand la lutte vient, comment réagissons-nous? Ne sommes-nous pas souvent nous-mêmes saisis par la peur? Ces frères, ces sœurs qui me disent « Depuis que je sais que tel événement m'attend, je n'en dors plus la nuit. » Frère, priez pour moi, j'ai un nœud ici, j'ai une boule, j'ai peur. Ceux et celles qui, eh bien, vivent littéralement sous un esclavage de peur, qui les conditionne. Mes frères, mes sœurs, nous oublions trop souvent que le Seigneur veut faire partie de notre programme, et ceci chaque jour. Chaque jour, quelles que soient les circonstances. Quelle est la genèse de la peur? Ce sera mon premier point. Quand dans la Bible nous parle-t-on de la première fois de peur? Dans le livre de la Genèse, vous trouvez la genèse de la peur. Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Oula, ça c'était un 11 à l'alsacienne. Hein, à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Première apparition de la peur. Genèse de la peur. La peur conséquente aux conséquences de la culpabilité, culpabilité liée à la désobéissance. Adam et Ève vont éprouver pour la première fois un sentiment étrange, mais un sentiment qui leur fait du mal et qui leur dicte une conduite contraire à celle du royaume de Dieu, se cacher. Se cacher devant Dieu parce que quelque chose n'est pas en règle. La culpabilité engendre la peur parce qu'ils ont transgressé l'ordre. Tu n'en mangeras pas. Et voilà qu'à partir de là, nous trouvons la mère de toutes les peurs, celle d'Adam et d'Ève. Et cette peur-là, nous pouvons directement la relier à la désobéissance à Dieu. Nous pouvons la relier au péché. Peur et désobéissance, peur et péché, peur en tant que conséquence, bien sûr, eh bien, font toujours route ensemble. La peur, cette peur qui vous détruit, cette peur qui vous ronge, dans leur volonté de s'affranchir de Dieu, dans leur volonté de mener leurs propres affaires pour ne plus être dépendants de lui, parce que c'était quand même un peu de cela qu'il s'agissait. Écoutez ce que dit Satan. Satan dit, attendez, s'il vous a dit de ne pas en manger du fruit, je précise, il est parlé d'un fruit, pas d'une pomme. Hein. Souvent dans l'image populaire, l'imagerie populaire veut que ce soit une pomme. Mais enfin, nulle part c'est écrit que c'est une pomme. Maintenant, certains disent, Adam mangea la pomme et il eut plein de pépins. C'est vrai que ça pourrait nous aider dans notre réflexion. Mais enfin, il s'agit simplement d'un fruit. Cependant, le problème, c'est pas tant le fruit que le fait d'obéir. Et là, Satan vient et il dit, mais il sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. En d'autres mots, si vous en mangez, vous deviendrez comme lui. Si vous en mangez, vous pouvez vous affranchir de Dieu. Et c'est ce qui va les amener à vouloir mener une vie dans laquelle ils vont eux-mêmes devenir Dieu. Lorsque nous nous affranchissons de sa présence, très souvent, nous laissons place à la peur, car voyez-vous, comme l'absence de lumière laisse place aux ténèbres, ainsi l'absence de la présence de Dieu laisse place à la peur. Alors, évidemment, je ne vais pas réduire toutes les peurs au péché, même si je crois qu'elle est la mère de toutes les peurs. Mais je sais que toutes les peurs que nous éprouvons ne sont pas forcément liées à un péché. Quand même, je peux, eh bien, dire là que je découvre la mère qui a engendré toutes les peurs. Je classerai donc les peurs dans deux groupes. La peur non coupable et la peur coupable. La peur non coupable. Des exemples. L'autre jour, je vais chez le coiffeur, enfin la coiffeuse. Et c'est à elle que j'ai refusé la priorité. Elle m'a donc taillé la haie. Et puis tout d'un coup, elle me dit, excusez-moi monsieur, il faut absolument que j'appelle ma fille. Je voudrais savoir où elle est. J'ai vraiment besoin de savoir où elle est. Je dis, allez-y, au stade où nous en sommes. Elle va donc au téléphone pour appeler sa fille. Et quand elle revient, elle dit, excusez-moi, je vis dans l'angoisse et dans la peur au sujet de ma fille. C'est ma fille unique, voyez-vous. Je suis divorcée et j'ai été agressée dans ma jeunesse. Et depuis cette agression, eh bien, je vis continuellement dans la peur de ce qui pourrait arriver à ma fille. Voilà une peur qui est liée à un péché. C'est sûr. C'est le péché qu'un autre a commis. Mais elle, eh bien, elle est marquée par un traumatisme, elle a été traumatisée, et ce traumatisme engendre des peurs. Vous avez d'autres sortes de pleurs, bien plus. Tous les étudiants connaissent ce genre de peur avant les examens. Quand vous avez passé le bac, papa, tu te souviens quand on a passé le bac? Je parle du bateau qu'on a pris ensemble, hein, parce que c'est le seul bac que nous on a passé, hein. Bon. Mais ceux qui ont passé l'autre bac, là, celui qui fait mal à la tête. Vous souvenez quand vous avez un examen? La peur est là. D'ailleurs, on dit même aux étudiants, prenez tel médicament pour vous calmer, pour vous déstresser, de manière à ce que vous veniez l'esprit libre, etc. Alors, il y en a certains, ils sont tellement déstressés qu'ils voient même plus la feuille. C'est une peur, à quelque part, parfois légitime. Moi, je me souviens, quand j'ai passé mon permis de conduire. Vous savez, j'avais beau bien savoir conduire, quand il était assis à côté de moi, ce fichu inspecteur, en plus de ça, il s'appelait Crucifix, alors, vous pouvez y aller, hein. Mais moi, ça me paralysait. Alors, comble de malheur, il me fait faire un créneau, je fais le créneau. Que nous a-t-on appris? Quand on fait un créneau, après avoir fait le créneau, point mort, tirez le frein à main. Mais j'étais tellement stressé. J'ai tiré le frein à main, le bouton est parti, poum! Il me dit, mais il me casse encore mon frein à main, celui-là! J'étais mort de trouille. Mais ça, c'est des peurs qui sont un peu conditionnées par le fait qu'on sait que, eh bien, l'étape qu'on va passer, elle est importante. Il y a d'autres peurs que tout le monde peut connaître. Les jeunes gens. Y a-t-il des jeunes gens dans cette salle? Voilà, j'en vois, oui. Vous savez, la première fois que vous déclarez votre flamme à quelqu'un, avant de lui dire « je t'aime », Georges, mais lui, il s'en souvient encore aujourd'hui. Mais j'avais peur. Et alors, j'arrivais pas à lui dire, ce qui fait que je l'ai emmené faire une promenade. Ça a duré 2 heures la promenade, parce que j'arrivais pas à lui dire. J'avais tellement la trouille. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord épuisé le sujet avant de l'attaquer. Et c'est une technique. Mais après mon grand tour, où j'ai essayé de... Ah ben, je lui disais quand même, tu sais, t'es sympa, j'aime être avec toi. Mais je suis pas arrivé à lui dire, je t'aime, je suis pas arrivé. On a fait un grand tour, d'une heure et demie à peu près. Elle était fatiguée. On arrive devant chez moi, je lui avais toujours pas dit. Je lui ai juste dit... T'as compris ce que je veux dire? Elle me dit non. Elle dit, mais c'est pas possible, hein. Donc, on a refait un tour. Et c'est là que je lui ai déclaré, je t'aime. Ah là là, quelle libération, mes amis. Ça, c'est pas coupable. Vous avez les gens qui ont des phobies de l'ascenseur, de l'avion, etc. Bon, ils en peuvent pas forcément quelque chose. Vous avez des gens, à peine ils sont dans l'ascenseur. Je me souviens, on était à la ZUP faire une réunion de prière. T'étais avec? Je crois que t'étais avec. On était à 9 dans l'ascenseur, ou 10, hein? Avec 14 avec Papa Jean. Bon, vous voyez un peu, hein? C'était very, very occupé. Bon. On était tous là-dedans, tout d'un coup l'ascenseur se bloque. Eh bien là, je peux vous dire, tous ceux qui priaient avec foi avant, on a découvert où était leur foi. Et qu'est-ce qui va arriver? On ne va plus avoir d'air. Déjà, je manque d'air. Déjà. Bon, ça c'est des peurs légitimes. Maintenant, les peurs coupables. Le psalmiste dit au psaume 38, verset 18, « Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Je suis dans la crainte, et là il relie la peur au péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le gendarme sur la route, il n'effraie pas celui qui obéit et se soumet à la loi. Hein. Vous avez remarqué? C'est quand il y a infraction. Moi je sais que parfois, suivant la vitesse à laquelle je roule, bon, j'essaye de rouler. Je me donne la peine. Un jour, deux CRS m'ont arrêté, parce qu'apparemment, j'allais un peu plus vite. Et puis, il me dit « descendez ». Donc, je descends. J'étais très poli avec lui. Il dit « bonjour, monsieur ». Il me dit « c'est quoi votre profession ?» On pourrait pas parler d'autre chose, s'il vous plaît. Alors je lui dis, je suis pasteur. Il dit, c'est pas bien, monsieur le pasteur. Parce que le bon Dieu là-haut, il vous voit. Ouais, ben il avait raison. Ouais, il avait raison. Il m'a vraiment touché haut. Mais après, il a eu compassion de moi, il me l'a pas donné. Oui, parce que moi, je lui avais promis de le bénir. L'inspecteur des impôts ne fait peur qu'aux tricheurs, n'est-ce pas? Quoique parfois les voies des impôts sont parfois impénétrables, mais bon, quand même. La police, on ne la craint qu'en cas d'acte répréhensible. Un mari fut fidèle. Est-ce qu'il a peur d'être surpris par son épouse? Mes frères, rassurez-moi quand même. Non, mais parce que moi j'estime que vous êtes tous fidèles, donc votre non-réponse m'inquiète. Un mari fidèle, est-ce qu'il a peur d'être attrapé par son épouse? Non, c'est les sœurs qui répondent. Oh là 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 là. Bon, écoutez, un mari fidèle n'a pas peur d'être surpris, parce qu'il sait qu'il marche droit. Il est heureux. Il peut regarder son épouse dans les yeux, se réjouir, et même s'il regarde une autre dame, son épouse n'est pas jalouse. Eh ouais. Parce qu'elle sait, il est fidèle. Il est fidèle. Non, il y a des peurs qui sont liées au péché. Voyez-vous, par exemple, l'orgueil, la convoitise. Tiens, l'orgueil d'une place. Vous avez des gens qui vivent constamment dans la peur qu'on prenne leur place. Mais ça les amène à faire toutes sortes de choses qui ne sont pas droites. Ça conditionne leur comportement. Que vont-ils faire? Ils vont essayer d'éliminer ce gêneur. Ils vont essayer d'éliminer celui qui se trouve près d'eux. Cette peur liée littéralement à la chair. J'ai vu, par contre, si des hommes sont fidèles, mais j'ai vu des personnes trahies dans leur mariage qui me disaient « mais j'arrive plus à faire confiance. Je peux plus faire confiance. Je n'arrive plus à bâtir quelque chose. Je n'arrive plus. » Je n'arrive plus. J'ai vu des gens qui avaient des peurs, mais liées alors aux conséquences d'un péché, et qui avec la meilleure des volontés disaient mais maintenant quand quelqu'un me dit mais je t'aime, mais j'ai des soupçons, je peux plus croire comme ça. J'ai tellement souffert. Vous savez frère, j'ai tellement mis mon espérance dans mon mari ou inversement dans ma femme, parce que c'est des deux côtés que ça se passe. Ça les conditionne. Et qu'est-ce que cela va faire? Ça va développer en eux un comportement. Vous savez des couples qui souffrent de la jalousie, mais cette jalousie trouve son origine dans une blessure, celle d'une trahison par exemple. Et cette trahison a engendré une telle peur que l'autre, eh bien, ne vous lâche plus, il vous surveille constamment. Parce que, j'entendais un jour une femme dire la chose suivante à son mari, c'est pas de toi que j'ai peur, je te fais confiance, mais c'est des femmes que je me méfie. C'est lié à une angoisse, et si quelqu'un venait me le prendre. Alors, en règle générale, ces gens-là, ils ont toujours dans leur entourage propre quelqu'un qui ça arrive. Toute la situation du couple, toute la situation de la famille va souffrir de la peur. Vous avez des gens qui, eh bien, sont conditionnés dans leur peur, tout simplement parce qu'ils savent très bien que la manière dont ils ont agi est mauvaise. Ils le savent. peur et transgression, quelle qu'elle soit cette transgression, je ne vais pas ce matin faire un détail des transgressions, mais quelle qu'elle soit, engendre la peur. Mais ensuite conditionne votre vie, va détruire vos relations. Les gens qui sont muets par la peur sont des gens qui à la longue sont difficiles à vivre, le saviez-vous? Même parfois les peurs qu'on appelle légitimes, la maman qui s'inquiète pour son enfant, mais j'ai vu des enfants littéralement étouffés par leur mère. Étouffés par leur mère. Des enfants qui n'ont jamais pu s'épanouir. Littéralement étouffés. Ils font pas trois pas que le téléphone sonne. T'es où? Tu viens quand? Tu fais quoi? C'est une angoisse. Mais cette angoisse, vous la déversez ensuite sur les autres. Nous avons pour ça besoin de la libération de la peur. Car voyez-vous, et c'est mon deuxième point, la peur a des conséquences. Je suis en train d'en citer, mais j'aimerais en prendre certaines que nous trouvons dans la parole. Deux Rois 6, verset 15. Je vais aller plus vite, le temps passe. La peur va vous empêcher de voir Dieu. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître !» s'écria-t-il. « Qu'allons-nous faire ?»« N'aie pas peur, » répondit Élisée. « Ceux qui se trouvent avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, il pria en ces termes. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux. La peur du serviteur. Voilà un serviteur qui est comme les disciples, avec un prophète exceptionnel, Élisée. Des résurrections ont lieu avec cet homme. La gloire de Dieu se manifeste. Et là, soudain, les ennemis de son maître viennent pour le saisir. Le serviteur sort et il crie qu'une chose, « Malheur, maître, qu'allons-nous faire ?» Voilà une situation difficile dans laquelle, encore une fois, le serviteur, comme les disciples, ne pense pas à la présence de Dieu. Et vous savez là la différence entre l'homme de Dieu qui compte sur Dieu et celui qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui dans l'épreuve l'oublie. Les deux connaissaient l'Éternel, le serviteur et le maître Élisée. Mais la réaction ne sera pas la même. Et là Élisée dit, mais ouvre-lui les yeux. Mes frères, mes sœurs, je vais vous faire une confession, combien de fois j'ai été comme ça? Combien de fois dans des situations difficiles j'ai eu peur? Ah non, vous n'avez pas quelqu'un d'irréprochable devant vous, ça vous le saviez depuis longtemps. Mais vous avez également quelqu'un qui sait ce que c'est la peur. Certaines situations difficiles. Parfois, c'était la réaction de certains membres de l'Église qui exerçaient une pression sur moi. Parfois, c'était des situations politiques ou autres qui exerçaient une pression. Parfois, c'était des engagements que nous avions pris avec l'Église parce que nous avons... Vous savez, lorsque vous êtes responsable d'une Église, vous prenez des engagements et vous vous mouillez alors. Et là, tout d'un coup, la nuit, eh bien, je voyais des chiffres qui passaient devant mes yeux. La peur qui vous tenaille. Et tout d'un coup, vous plongez dans une détresse intérieure parce que vous avez l'impression que vous êtes seul, coupé de tout. Il n'y a plus personne. Je me noie, j'ai vu un fantôme, c'est fini. L'homme de Dieu, tranquillement, l'homme de foi dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et là, le serviteur prend conscience de la présence de Dieu au travers des chars, des anges qui sont là. Mon frère, ma sœur, la peur te coupe de la présence de Dieu. La peur t'angoisse. Tes peurs, quelles qu'elles soient, te font du tort. Quelles qu'elles soient, elles conditionnent ta vie. Les peurs t'empêchent de jouir pleinement de la présence de Dieu. Un autre point, la peur nous paralyse et nous met en situation d'échec. Je ne vais pas lire tout le texte, mais 1 Samuel 17, 10 à 11, vous pouvez le lire chez vous ou on le met sur l'écran. Le Philistin Goliath vint, il lance un défi. Et la Bible nous dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ce matin, c'est pas un message pour les non-croyants, c'est un message pour les chrétiens. Amen. Je parle que de personnes qui ont connu Dieu. Je parle que de gens qui connaissaient Dieu. Les disciples étaient avec Jésus, le serviteur d'Élisée avec un grand prophète. Israël avait vu la gloire de Dieu, Saül l'avait vu combien de fois la gloire de Dieu. Mais ces mêmes gens qui connaissaient Dieu pourtant, à cause de leur crainte, à cause de leur peur, liés à leur désobéissance, puisque Saül avait désobéi, eh bien vont se retrouver paralysés. Et je suis souvent malheureux de voir des chrétiens paralysés, paralysés devant leurs épreuves, paralysés devant les défis, paralysés devant ce qui est devant ce qui est là, devant eux, paralysés. Mon frère, ma sœur, Christ est venu pour nous libérer. Christ est venu pour nous transformer. Le diable manipule la peur et ensuite t'entraîne dans la dépression la plus profonde. Son but, c'est de te détruire. La peur nous oriente vers de mauvaises solutions, des solutions humaines, toujours la même chose. On ne pense pas à Dieu, toujours dans le même contexte. Saül, qu'est-ce qu'il va faire quand David arrive? Eh bien, il va essayer de l'équiper avec sa cuirasse, son épée, son bouclier, son casque. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va écraser David. Combien de chrétiens se disent chrétiens, mais ne cherchent que des solutions humaines à leurs problèmes, et les solutions que vous avez trouvées sont en train de vous tuer? Les solutions que vous avez trouvées sont en train de vous priver de l'intervention de Dieu. Nous cherchons nos propres solutions. Mais des solutions dans lesquelles Dieu n'a aucune part, nous ne pensons plus à lui. Je vais vous dire, certaines églises sont carrément freinées parfois les anciens de l'église, parfois le conseil de l'église, parfois le conseil d'administration de l'église, parce qu'à la tête, vous avez des gens qui ont peur. Alors plutôt que d'entreprendre, on n'entreprend rien. Tiens, on pourrait construire. Ah frère, vous savez, avant de construire, il faut d'abord être sûr. Il faut d'abord qu'on fasse tous nos calculs. Il faut d'abord ceci, d'abord cela. Mais jusqu'à ce que vous ayez toutes les garanties qu'ils veulent, t'as même plus besoin d'avoir la foi. T'as plus besoin de foi. Mais ils te paralysent. L'acte de foi est toujours un acte à quelque part dans lequel tu vas défier tes peurs. Hello. Tu fais pas d'acte de foi si tu défies pas ta peur. L'acte de foi, c'est cette confiance en Dieu qui te dit de faire quelque chose. Et tu le fais sans avoir peur de ce qui va se produire. Hello? Avec Papa Jean, je vous assure, on a fait des actes de foi quand on a acheté ce bâtiment. Alors vous allez me dire, c'est pas très conventionnel. Non, c'était pas très conventionnel, mais on n'avait pas le choix. On rentre dans ce bâtiment. Le propriétaire nous fait visiter. C'était le même propriétaire que le bâtiment précédent, à l'avenue DMC. Le propriétaire nous fait visiter. Il dit, voilà, messieurs, vous prenez ou vous ne prenez pas? En sortant, là, hein. Eh bien, on va réfléchir, il nous regarde dans les yeux. Il dit, c'est maintenant ou jamais. Tu te souviens? Papa Jean le regarde. Et dit, on le prend. Et moi, on n'a pas appelé le trésorier. On ne sait pas combien on a sur la banque. Élisée et son serviteur. Mais moi, j'en ai marre de jouer le rôle du serviteur. Hein, d'avoir tout le temps peur. Hein. En rentrant, il dit, on va appeler le trésorier. À cette époque-là, c'était mon frère Jean Schirmer. Et Monsieur Delaunay nous dit, je me souviendrai toujours Monsieur Delaunay, c'était le directeur et sa secrétaire, je l'oublierai jamais puisqu'elle s'appelait Madame Laplanche. Alors, bon, ça vous reste à vie. Il dit, bien, messieurs, nous voulons 10% de la somme. Hey, mais 10% de la somme, c'était, hein, à l'époque, en 1990, 10% de 3 millions? 2 millions 7. En francs. Ah oui, j'en voyais déjà qui, oh. Mais même en francs, on appelle le trésorier. On lui dit, Jean, on a décidé d'acheter combien on a à la banque. Et heureusement qu'on avait des hommes de foi avec nous, qu'on a aujourd'hui encore, je veux le dire. Il dit, ben, on a exactement 300 000 francs en réserve. Alléluia, dis-leur au revoir, trésorier, il n'y aura plus rien bientôt. On a donné notre acompte. Et on a pu acheter comme ça la salle. Un an après, elle était payée. S'il avait eu peur, on serait encore à l'avenue DMC. Peut-être encore à Pfastatt. Peut-être encore dans ton salon. parce que la peur réduit votre champ d'action. Est-ce que vous me permettez de continuer? Vous n'avez pas peur que je termine trop tard? Non, bien. La peur engendre le découragement. Regardez ce qu'il est dit. Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui ?» Vous avez remarqué que les gens qui ont peur, ils vous contaminent ? Vous venez plein d'enthousiasme. Allez, je vais prendre un exemple. Vous venez plein d'enthousiasme en disant « Oh, le Seigneur m'a vraiment donné la conviction. Il faut que je parte en Algérie pour annoncer l'Évangile. » Tu as réfléchi ? Le terrorisme. Tu as calculé le nombre de morts ? T'as vu dans quel état on les retrouve ? Et vous avez le jeune gars rempli de foi. Ah ? Ah ? Ah ! Peut-être que le Seigneur m'avait dit d'aller en Suisse. Combien n'ont pas accompli leur mission parce que ceux qui leur ont fait peur les en ont privés ? Vous savez, ceux qui ont peur, je vais vous dire, il y a deux problèmes chez ceux qui ont peur. D'abord, ils ont peur et eux-mêmes sont angoissés. Mais ensuite, votre courage à vous les culpabilise encore plus. Parce que vous allez faire des pas que eux ne font pas. Donc ça met encore plus en évidence leur situation. Alors, s'ils arrivent à vous ramener à leur raisonnement, à vous faire marcher à leur rythme, c'est leur propre conscience qui en sera calmée. Israël, malheureusement, a écouté 10 espions qui avaient peur. 2 avaient la foi. Caleb et Josué. Résultat des courses, 40 ans dans le désert. Je ne veux pas que nous restions dans le désert, frères et sœurs. Je veux que vous avanciez dans vos vies personnelles. Je ne veux pas que vous restiez esclaves de vos peurs. Je veux que vous puissiez progresser. Et c'est possible. Et c'est possible. La peur engendre le péché, ça vous le savez. La peur engendre également le péché. Non seulement on peut la connecter à la transgression, mais elle l'engendre. Vous allez me dire, mais non Samuel, mais non. Eh bien, je vais vous donner des exemples. Qui connaît Abraham ? Bon, vous allez me dire qu'avant d'être Abraham, il était Abraham. Et ce matin, comprenez-moi bien, je ne suis pas là pour culpabiliser quelqu'un qui a peur, non. Je suis là pour te dire, il y a une solution à tes peurs. Dans certains cas, cela demande de la guérison intérieure. Dans certains cas, cela demande de l'accompagnement. Cela demande parfois des pardons à donner. Dans d'autres cas, et dans l'ensemble des cas, cela demande de toute manière de prendre conscience de la présence de Dieu. Mais regardez Abraham. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et ils te laisseront la vie. » Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Alors, c'est bon, il n'a pas fait un gros mensonge. Il a fait un demi-mensonge. Puisque c'était sa demi-sœur. Mais c'est la peur qui va motiver le mensonge. Sarai, lorsque les anges ont annoncé qu'elle aurait, lorsque les hommes qui étaient là, elle ne voyait pas que c'est des anges, mais lorsque les hommes qui étaient là ont annoncé qu'elle aurait un enfant, qu'est-ce qu'il est dit dans l'écriture ? Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. La peur a engendré le mensonge. Combien de fois est-ce que la peur vous fait pécher ? Vous savez, la peur, c'est pas anodin. Le père de la peur, c'est l'ennemi de nos âmes. Combien de fois la peur nous a menés au mensonge ou à d'autres choses qui n'étaient pas droites, la peur. Alors j'entends, certains me disent, c'est un pieux mensonge. Ah. Et vous savez que l'enfer est peuplé de gens qui n'ont que menti pieusement. C'est un pieux mensonge. Non, c'est pas un pieux mensonge, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous devons marcher dans la vérité. Et puis, permettez-moi de terminer cette partie en disant, la peur va vous empêcher de suivre le Seigneur. Regardez, Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. J'aurais pu ce matin citer 1000 et autres exemples. Bien, on aurait pu prendre Pierre, l'apôtre Pierre. Il va renier Jésus 3 fois. En d'autres mots, il va mentir 3 fois. il va mentir trois fois. Mettons les mots justes. Il va mentir trois fois. Et il va mentir trois fois pourquoi ? Mais parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur, et je peux comprendre qu'il ait eu peur. Moi, je ne juge pas Pierre et je ne juge aucun d'entre vous qui aurait peur. J'ai eu assez peur pour savoir ce que c'est. Et je suis toujours confronté à cela. Mais j'ai appris ce qu'il faut faire pour que la peur ne me domine pas et ne me détruise pas. Mon frère, ma sœur, Pierre avait... Oui, il savait pourquoi il avait peur. Imaginez l'atmosphère qu'il y avait là. Imaginez la pression, la tension. Et puis trois fois, il va le renier. Trois fois. La peur nous empêche de suivre Christ, nous mène au péché. Alors le remède à la peur, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais prendre 5 minutes et je termine. La solution peut sembler réductrice. La solution est la seule vraie qui puisse vous aider, c'est la foi. C'est la seule. Rappelez-vous de la genèse de la peur. La genèse de la peur, c'est une conséquence de la volonté. Je dis une conséquence. Liée à une culpabilité, celle d'un jugement, mais une conséquence de se séparer de Dieu. Chaque fois que nous lisons qu'ils ont eu peur, ils étaient séparés. Les disciples étaient séparés de Jésus. Ils ne l'avaient pas inclus dans la solution à leur problème. Le serviteur d'Élisée n'avait pas inclus Dieu dans la solution à son problème. Sarah n'avait pas inclus Dieu dans sa réaction. Et c'est pour ça qu'elle va mentir. Elle n'a pas inclus Dieu dans ce que ces hommes étaient en train de dire lorsqu'ils diront « L'année prochaine, quand nous reviendrons, ta femme aura un fils ». Elle n'a pas inclus Dieu. Et si vous examinez votre propre vie, vous vous rendrez compte que la majorité de vos peurs sont liées au fait qu'à un moment donné ou à un autre, Dieu n'est plus celui sur qui nous comptons pour la solution. Et ça nous plonge dans la détresse. Jésus arrive et il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. En d'autres mots, quand je suis là, tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Hello ? Quand Jésus te dit, je suis là, ça veut dire que tu n'as plus de raison d'avoir peur. Dis à ton voisin, s'il te dit qu'il est là, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Dis-le lui, c'est ce qu'il dit. Robert, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin. C'est moi Jésus. C'est moi celui que vous n'attendiez pas. C'est moi sur lequel vous ne comptiez pas. C'est moi. N'ayez plus peur. Votre solution est là. Est-ce que vous lisez encore quelque chose de tempête par la suite ? Est-ce que vous lisez encore longtemps ? Et avec Jésus, ils ramèrent à 13 comme des galériens contre les flots. Non ? Il y a d'ailleurs un texte qui dit qu'au moment où Jésus vint, aussitôt ils arrivèrent à l'autre bord. La barque devint le premier hors-bord. Aussitôt, il est dit, ils sont au milieu de la mer, Jésus arrive, aussitôt ils sont de l'autre côté. Hey ! Aussitôt, mon frère, ma sœur, Jésus est là, aussitôt, tu peux avoir la paix. Mais Pierre veut être sûr. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Ordonne, appelle-moi, moi je veux tester. Ils étaient à 12, les autres étaient prudents quand même. Hein? Les autres étaient sages. Alors, aujourd'hui on appelle ça de la sagesse. Nous, frères, on est sages. Mais les sages, ils restent toujours assis dans la barque. Hein? Il n'y a qu'un Pierre qui a vécu ça. Je vous l'avais déjà dit. Un jour, quelqu'un, et je le dis souvent, mais pour ceux qui n'étaient pas là, un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'était facile de marcher sur l'eau. Parce que Pierre, il a pris un élan dans la barque. Et c'est l'inertie, c'est la vitesse qui a projeté Pierre sur l'eau et il a fait 3 pas. Et c'est pourquoi après il a coulé après. Alors moi je me suis dit, ça Samuel, tu peux pas laisser passer. Il faut que tu le testes. Et je suis allé à la piscine. Alors moi j'aime bien pousser les trucs à fond. J'aime vérifier les choses. Ça j'aime le faire, il faut vérifier les choses à fond. D'ailleurs, le jour où ma femme m'a dit « Ah, mais quand le bébé, il tète, ça me fait vraiment mal », moi, je me disais « Mais quelle chouchotte !» Et un jour, quand elle n'était pas là, le bébé avait faim, je me suis dit « Maintenant, je vais essayer. » Mais je ne vais pas donner le sein. Ça, même pas de la poudre, j'ai même pas de la poudre. Mais je vais donner la langue. Je lui donne la langue, au moment où je donne la langue, il fait... Ah! Ah! J'ai cru que l'estomac et le foie et les intestins allaient suivre. Attendez, vous riez, mais essayez-moi, moi je vous promets. Ils ont une force de succion extra... Mais exceptionnelle! Mais j'avais mal en tout, ouais, là, j'avais mal. Ma femme rentre à la maison, elle dit, ça va? Le bébé va bien? Elle dit, qu'est-ce que t'as? Et alors, je lui ai expliqué, elle dit, mais t'es malade, toi? Je dis, non, je voulais te comprendre, mais maintenant, je te promets, je te jugerai plus jamais. Et chaque fois que je la voyais, moi, j'avais mal à la langue. Mes soeurs, moi, oh là là, vous êtes courageuses, moi, je vous bénis. Je vais donc à la piscine, je suis à la piscine, je prends mon élan, je suis en maillot de bain. Bon, les gens ont dû me prendre pour un malade, hein? Mais au stade où j'en suis. Je prends l'élan, je cours, je me lance sur la piscine et je marche au fond. Conclusion de mon expérience scientifique, lorsque vous voulez marcher sur l'eau sans que Jésus vous ait appelé, vous coulez. Pierre va vivre le surnaturel avec Jésus. Avec Jésus, l'instabilité de ta situation devient stable. Avec Jésus, l'impossibilité de ta situation devient possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais tout est possible. Tout est possible. Que va-t-il se passer? Eh bien, je dirais que les vieilles habitudes vont rattraper Pierre. Hop, au bout d'un moment, à nouveau, on oublie Jésus et on regarde le problème. Quand on regarde le problème, qu'est-ce qui se passe? Les angoisses viennent, les peurs viennent et on coule à nouveau. Mais dans sa grâce, et je bénis Dieu, dans sa grâce, il lui dit, il lui tend la main. Jésus répondit, pardon, c'est un peu plus loin. Pierre sortit de la barque, se mit à marcher sur l'eau. Quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Comme ta confiance est faible, mais il ne l'a pas laissé couler. » Et je peux vous garantir une chose, vous êtes appelé à être sauvé, il ne vous laissera jamais couler. Vous êtes appelé à triompher, il ne vous le laissera pas couler. Le Jésus que je connais ne laissera jamais couler les siens, jamais. Jamais. Ce qui aurait été terrible pour moi, c'est qu'il soit écrit, Jésus croisa les yeux. Jésus. Excusez-moi. Jésus croisa les... Oh là là. Jésus croisa les bras et regardit Pierre se noyer en disant, voilà le salaire de l'incrédulité. Ça me ferait peur. Là, j'aurais eu peur, en disant, mais Seigneur, alors je suis perdu, parce que par mes propres forces, je ne peux pas me maintenir à la surface de l'eau. Par ma propre volonté, je ne peux pas, j'ai besoin de toi. Seigneur, plus que jamais, j'appelle ton nom. Seigneur, tiens-moi, tu as donné des promesses, tu as dit, tes brebis sont dans ta main, nul ne les ravira de ta main. Seigneur, ma situation est difficile, mais tu as dit, tu serais avec moi dans toutes les situations. Seigneur, même Jérémie dit à un moment donné, je ne mettrai plus ma confiance dans l'Éternel, tellement il était désespéré. Cependant, par la suite, il reviendra à toi et reconfessera ta présence. Seigneur, j'en suis là. Seigneur, je veux me tenir à toi. Comment avoir l'assurance de cette présence? Préoccupez-vous d'abord, Matthieu 6, du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Voulez-vous sa présence? La voulez-vous régulièrement? Préoccupez-vous de son royaume et faites ce qui est juste. Et vous vous assurez cette sainte présence. En conclusion, le sentiment de peur, en nous doit résonner comme une douleur dans le corps. Quand vous avez une douleur, la douleur est en train de vous dire quelque chose. La douleur n'est que la résultante d'un problème plus grave. La douleur est en train de vous avertir. Quand j'ai mal aux dents, ce n'est pas une souffrance qui vient par hasard et qui s'installe, qui repart. Non, quand j'ai mal aux dents, ça signifie qu'il y a une dent qui n'est pas en état. Et cette dent donne des signaux par les nerfs et j'ai une douleur. La douleur m'emmène à prendre une décision, aller voir le dentiste, même si j'aime pas le dentiste. Et j'aime pas. Je peux vous promettre, moi, je transpire chez le dentiste. Hein. Quand il dit ouvrez la bouche, oh, oui. Et puis après il commence avec sa fraise. Et en plus de ça, ils ont appelé ça une fraise. Moi, la fraise, je vois tout à fait autre chose. Et puis ça. Ça me stresse. Je suis parfois dans la salle d'attente. Déjà, c'est pour ça que chez nous, ils ont mis des poissons. Ils font que. Donc ça vous détend entièrement avant de rentrer chez lui. Mais je sais, c'est là la solution. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, t'arrête pas à tes peurs seulement. Ne dis pas simplement, Seigneur, c'est vrai que j'ai peur. Seigneur, maintenant, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai peur. D'où vient cette peur? Seigneur, je veux comprendre d'où elle vient. Seigneur, je veux te demander de l'aide. Si cette peur vient d'un traumatisme, si cette peur vient d'une trahison, si cette peur vient de l'aide, Seigneur, je veux me décider à pardonner. Seigneur, je veux me décider à reconstruire des ponts. Ou Seigneur, je veux me décider à trouver un confident qui peut m'écouter, m'aider, prier pour moi. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Ensuite, apprenez à ne pas laisser les circonstances vous dominer comme Pierre. Tout d'un coup, les circonstances dominent Pierre. Regardez sur Jésus et rappelez-vous. Et nous pourrions fermer nos yeux pendant que mon frère vient au clavier. J'aimerais vous laisser une parole. Fermons nos yeux. Gravez-la dans votre cœur. Psaume 9, versets 9 et 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Es-tu opprimé par tes peurs? Qu'est-ce que c'est être opprimé? C'est simplement vivre sous une oppression, une pression, être étouffé dans ce que tu es. Es-tu étouffé par tes peurs? Es-tu conditionné par tes peurs? Est-ce que tes peurs sont en train de te dicter la conduite à suivre? L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Psaume 34, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 91, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Chantons ensemble, mon seul abri c'est toi. Vous qui avez des peurs, j'aimerais que nous nous levions tous ensemble. Je ne vais pas demander à ceux qui ont des peurs de se lever. Vous, chers internautes qui êtes en train de suivre, chantez avec nous ce chant, mon seul abri c'est toi. Restons là dans la présence du Seigneur et nous terminerons par ce chant, la mineur. Mon seul abri c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort, mon seul abri. Père, ce matin, bénis ceux qui sont dans la peur. Secours-les, augmente leur foi. Augmente notre confiance. Que tu ne viennes plus à dire que votre confiance est faible. Bénis les internautes. Touche-les en cet instant. Que ta paix et le repos de la foi viennent en eux. Je te le demande.
Le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me confesse-le encore une fois. Je m'appuie sur toi. Oui, je je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.